voyons, faisons le point maintenant. Nous sommes à l'automne 95. Quelle est la situation française et quelle est la situation personnelle de Bonaparte? La situation française, à l'automne 95, ben, c'est le début du directoire. Le directoire, ça succède à la convention. Qu'est-ce que c'est pratiquement le directoire? C'est la mainmise de ceux qui ont fait Thermidor. Et qu'est-ce que c'est que Thermidor? C'est la tentative de la bourgeoisie, enfin des notables, pour s'installer définitivement, pour que les conquêtes de 1789, c'est-à-dire les conquêtes de la bourgeoisie d'affaires, soient permanentes. Et c'était la disparition de ces tentatives de Robespierre pour s'occuper de la cariatide, c'est-à-dire du peuple, c'est-à-dire du quatrième état. Dès que Robespierre avait disparu, les fournisseurs de l'armée, qui avaient été remplacés par une régie directe, les fournisseurs reparaissent. L'agiotage contre les assignats que Robespierre essayait d'interdire reparaît également. Et ce maximum, c'est-à-dire le prix maximum des denrées que Robespierre avait tenté d'établir afin que les pauvres puissent manger, il est aboli. Résultat, voilà quelques chiffres. Prenons comme indice 100, comme indice de base, l'indice 100, l'année 1790. En janvier 95, les denrées, qui étaient donc à l'indice 190, sont passées à 580. En mars 95, à 720. Le prix des denrées. Hein. Et en avril 95, à 900. Bah, regardez le prix des salaires, toujours avec indice 190. 150 ou 200 maximum pour un certain nombre d'ouvriers, 200, pas plus, l'augmentation des salaires. Le résultat, ben, vous l'imaginez d'avance, c'est-à-dire une misère ouvrière incroyable, c'était le prix du pain qui montait jusqu'à 28 sous la miche, et 28 sous la miche, un ouvrier gagnait environ 30, 35 sous, vous vous rendez compte de ce qui restait, enfin, pour le loyer, pour manger, pour les gosses, enfin, 28 sous. Alors forcément, il était arrivé une insurrection de la famine, deux insurrections, une d'avril et une de mai 95. Le pouvoir avait utilisé pour la première fois l'armée, on avait tapé un général, d'abord le général Menu, ensuite le général Pichegru, on avait cerné le quartier de la misère qui était le quartier Saint-Antoine, des ouvriers s'étaient réfugiés, croyant que c'était un asile dans Notre-Dame de Paris, le général Pichegru avait déchaîné ses hommes dans l'église Notre-Dame pour y faire un massacre de prolétaires. À partir de ce moment-là, pour employer le langage de M. Thiers au XIXe siècle, le prolétariat avait reçu une leçon qui lui persuadait de rester tranquille. Alors ça allait. Les financiers, les agioteurs, les fournisseurs tenaient, comme on dit, le haut du pavé. C'étaient les honnêtes gens. Tous ceux qui n'avaient pas d'assignat, mais qui avaient de l'or, ben c'était l'âge d'or pour l'or. Tenez, regardez dans la correspondance de Benjamin Constant. Benjamin Constant, c'est un Suisse qui est arrivé à Paris au début de 95 dans les bagages de sa maîtresse, Madame de Staël, et qui a de l'argent, enfin, il a de l'or. Il a son petit piping personnel, vous savez, sur le pactole Necker. Et alors avec tout ça, ben, il peut se tirer d'affaire à Paris. Il écrit des lettres incroyables à son oncle et à sa tante qui sont restés dans le pays de Vaud, où il leur dit, on ne peut pas imaginer ce qu'on peut faire avec un louis à Paris. Donc ça va très bien pour les nantis. Ben, Bonaparte aussi maintenant, c'est un nanti. Oui, je vous l'ai dit, il habite à l'hôtel de Créqui, il est le chef des armées de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a la force militaire de Paris à sa disposition, il est général de division, il avait été brigadier en 94, le voilà maintenant divisionnaire en 95, il a énormément d'argent, l'argent occulte que lui a donné Barras en récompense de ce qu'il a fait comme aide de camp à ses côtés le 5 octobre, c'est-à-dire le 13 Vendémiaire. Je vous ai dit qu'il avait envoyé 1 million, 50 000 écus, 1 million à sa mère. C'est un monsieur qui sourit maintenant, vous savez, notre Bonaparte, il sourit maintenant de ce qu'il était il y a encore 3 ans. Quand il pensait réussir en Corse, mon fils, c'est de l'enfantillage. Qu'est-ce qui s'est devenu en Corse? Une sorte de Paoli, peut-être, enfin, un gouverneur assez opulent de la Corse. Mais maintenant, tout lui est possible. Il a été, pour ainsi dire, refoulé sur la France. Il y est arrivé furieux, rageant. Mais il se dit maintenant, c'est une chance extraordinaire que le destin m'a donnée. C'est en France que je suis en train de faire une fortune extraordinaire, une fortune magnifique. Seulement, il y a un petit ennui du côté de la réaction royaliste. Les thermidoriens sont des gens qui sont là, hein, au pouvoir, et qui veulent y rester. Ils ont deux ennemis. Les royalistes qui voudraient reprendre le pouvoir qu'ils avaient en 1688, et le peuple, la cariatide, les pauvres gens, ceux dont s'occupait Robespierre. Et aux élections, pour les deux assemblées du directoire, le directoire est composé d'un directoire exécutif, c'est-à-dire 5 membres. On les appelait en riant les saints rois ou les pintarques. Il y a 5 membres, et puis il y a, pour le législatif, 2 chambres. Il y a la chambre des anciens et la chambre des 500. Au total, 750 députés qui étaient les chiffres de la convention. Les gens de la Convention avaient même décidé, c'est ce qui avait provoqué l'insurrection royaliste, que obligatoirement, le corps électoral, qui était un corps censitaire, maintenant il fallait avoir de l'argent pour voter, les pauvres, comme du temps de Robespierre, ne votaient plus. Ils avaient décidé qu'il fallait que 500 des membres de la Convention soient élus aux deux premières chambres. Et bien, le public n'avait pas marché. les notables n'avaient pas tous été très contents. Il y en avait qui regrettaient la vente des biens nationaux. Il y avait des émigrés qui étaient à l'étranger, mais qui conservaient leurs propriétés cachées en France sous de faux noms, qui auraient bien préféré un retour à une situation à peu près royale. Le résultat, c'est qu'au lieu de 500 membres sur les 750, anciens membres de la Convention qui devaient se retrouver là, il n'y en avait eu que 379 qui avaient été élus. Et les autres, eh bien, c'était réellement de la droite et même de l'extrême droite. Barras, qui est le plus important des directeurs, parce que c'est lui qui avait la force armée avant de la passer à Bonaparte. Barras est quelqu'un de malin, de très souple, qui se dit, il y a une poussée à droite, il faut avoir des sourires du côté des royalistes, jusqu'à un certain point. Il faut leur demander de se déblanchir, et puis nous, on va se dérougir, on va s'arranger en faveur d'une espèce de situation intermédiaire. Par conséquent, il est de plus en plus aimable avec les royalistes, qu'il a écrasé au moment de Vendémiaire. Bonaparte colle à Barras. Il est une espèce de double de Barras. Alors lui aussi, il fait de la politique de droite, favorable à la droite, parce qu'il faut se faire pardonner ce qu'il a fait contre les royalistes en Vendémiaire. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il exécute les ordres du gouvernement qui, le 28 février 1996, lui ordonne de prononcer la fermeture, la clôture militaire et autoritaire d'un certain club du Panthéon qui était en somme la résurrection des Jacobins. C'est amusant de la part de quelqu'un qui avait fait tellement le Jacobin autrefois et qui maintenant fait de l'anti-jacobinisme. Il y a un problème personnel qui le tracasse dans cette année où il va avoir 27 ans, c'est le problème de son mariage. Il a envie de se marier. Parce que Joseph, Giuseppe, le frère, Joseph a fait un beau mariage. Je vous en parlais, c'était le mariage Clary, c'était des gens qui étaient des gros négociants de Marseille. Julie Clary, épouse de Joseph, avait une très grosse dot. La petite Désirée n'aurait pas demandé mieux que d'être Madame Napoléone Bonaparte. Bonaparte l'avait pris, elle était très agréable à posséder, mais il n'était pas tout à fait décidé à l'épouser, parce que maintenant qu'il est un grand personnage à Paris, ce qui convient à Giuseppe ne saurait convenir à Napoléone. Alors on le voit qui regarde à droite et à gauche ce qu'il pourrait bien épouser. La pauvre petite Désirée lui écrit d'être gentille et même pleurante, mais lui il répond que ça c'est oublié, qu'il l'aime beaucoup, mais enfin que passons aux choses sérieuses. Il y a une Madame Permont, qui est la veuve d'un fournisseur. Vous savez, les fournisseurs, là, c'était des gens qui s'engraissaient. Madame Permont a une fortune considérable, elle est veuve, elle est assez jeune veuve, mais en fait tout de même elle a 20 ans de plus que Bonaparte. Alors lorsque Bonaparte lui parle de mariage, il sourit. Elle a une fille, Madame Veuve Permont, elle a une fille qui sera plus tard la duchesse d'Abrantès. Cette petite Laure épousera Junot, et vous savez que Junot deviendra duc d'Abrantès. Barras. Barras n'aime pas beaucoup Bonaparte. Barras le méprise. Barras se moque de Bonaparte. Il le trouve assez ridicule, un peu prétentieux. Et quand il sait qu'il veut se marier, il lui fait une proposition. Il lui dit, ah, j'ai quelqu'un tout à fait pour vous. C'est la Montancier. La Montancier, c'est une actrice. Elle s'appelait Marguerite Brunet, son vrai nom. C'est une actrice très, très riche. Ça devrait intéresser Bonaparte. Mais elle a 65 ans. Et comme Bonaparte en a 27, ça lui paraît tout de même un peu difficile. Il veut faire un mariage d'argent, bien entendu. Il lui faut d'abord beaucoup d'argent. Mais un mariage de standing aussi. Alors vous pensez qu'épouser la Montancier, ça fera rire. Alors pas question, non, non. Il l'a trouvé très rapidement. Dès les derniers mois de 95, il sait qu'il veut épouser. C'est une nommée Joséphine. Il est vrai que Barras, qui est son amant, l'appelle Rose, mais enfin dans le monde, on l'appelle plutôt Joséphine. Joséphine qui? C'est Joséphine de Beauharnais. Elle s'appelle de Beauharnais par mariage, elle s'appelle en réalité Tascher, T-A-S-C-H-E-R, qui était un nom probablement d'origine alémanique. Mais ces Tascher s'étaient fait appeler de la Pagerie, parce que s'ils étaient expatriés, ils étaient allés à la Martinique, donc c'était une créole, puisque c'était une Française née à la Martinique. Les Tascher avaient de l'argent, c'est les Tascher de la Pagerie, c'était des gens considérables là-bas. Sa tante, la tante de Joséphine, elle s'appelle Madame Renaudin. Et cette Madame Renaudin, elle est devenue la maîtresse du gouverneur de la Martinique, qui s'appelle Monsieur de Beauharnais. Et Monsieur de Beauharnais a un fils. Alors c'est la tante de Joséphine qui va lui persuader d'épouser le fils de son amant. Et elle va épouser cet Alexandre de Beauharnais, qui deviendra un général, qui lui donnera deux enfants. L'un s'appelle Eugène, l'autre s'appelle Hortense. Ils se sépareront rapidement parce qu'elle se conduit un peu mal. Il se fera guillotiner, elle-même va être emprisonnée. En prison, elle se divertit parce que Hoche est en prison également. Elle est très amie avec Hoche et même avec le palefrenier de Hoche qui s'appelle Vanacker. En sortant de prison, elle est distinguée par Barras qui se partage entre Madame Tallien, qui est sa maîtresse officielle, et Joséphine, que lui appelle Rose, je vous l'ai dit, qui est sa maîtresse occasionnelle. Enfin, elle a 33 ans maintenant, en 95-96, elle vit par-ci par-là, vous savez, avec des financiers en particulier. Elle habite une très jolie maison. Dans le quartier qui correspondait à ce qui est aujourd'hui le 16e à Paris, c'était la Chaussée d'Antin. Rue Chantraine, elle avait un petit hôtel particulier à elle qu'elle avait loué. Les gens croyaient qu'elle le possédait, ce n'est pas vrai. Elle l'avait loué à Louise Caro. Et Louise Caro, c'était une ancienne actrice qui était devenue Madame Talma, la femme du grand Talma. Louise Caro avait obtenu ce joli petit pavillon qui était en simili-temple grec d'un de ses admirateurs. C'est là que l'odalisque de la rue Chantraine recevait ses amis. Il y avait ceci de particulier que sa chambre à coucher était entièrement tapitée de glace, sauf au plafond où cependant on les eut attendus. Elle-même, 33 ans, est un peu fanée. Elle fait un grand usage des fards. Quand on la regarde d'un peu près, on s'aperçoit qu'elle a une grosse couche. Elle est mignonne. Elle est créole, elle roule les airs, ou plutôt elle les avale. Enfin, les airs fondent dans sa bouche. Elle n'a pas de très jolies dents. Elle le sait, elle a les dents gâtées. Alors quand elle sourit, elle ne montre pas ses dents. Mais enfin, tout le monde dit, et la réputation est bien établie, qu'elle est dans le commerce intime d'une technique incomparable. Alors Bonaparte, immédiatement, s'est enthousiasmé sur cette personne, pour cette personne, et il s'est demandé s'il ne pourrait pas l'épouser. Il a des raisons pour ça. Première raison, il la croit très riche. Et il le dira. Il est très cynique lorsqu'il parle à Bertrand, à Sainte-Hélène. Il dit, je croyais que je faisais une affaire. Elle m'avait parlé d'un ou deux millions qu'elle avait, puis d'autres propriétés encore. Je me suis trompé, je me suis laissé rouler sur ce point. Je l'ai cru beaucoup plus riche qu'elle n'était. Il est vrai que c'est un réaliste, vous savez, qu'il avait fait faire une enquête. Un de ses anciens professeurs, un religieux, un ex-religieux, un de ses professeurs des minimes, vous savez, de Brienne, qui s'était sécularisé, qui s'était marié, qu'on appelait encore leur père Patrot, alors que c'était monsieur Patrot avec une madame Patrot. Pas trop s'occuper de la question financière. Alors Bonaparte est allé le voir. Il lui avait dit, pourriez pas faire une petite enquête discrète sur Madame de Beauharnais. Je voudrais savoir, enfin, de quoi elle dispose comme pécule. Et le père Patrot s'était vendu immédiatement à Joséphine. Lui avait dit, dites-moi le chiffre que vous voudrez, pourvu que vous me donniez une commission. Alors il avait trompé Bonaparte là-dessus. Tant pis, c'est pas bien grave, parce que maintenant sa situation personnelle est considérable, que si elle est peut-être moins riche qu'il ne l'a cru tout de même, elle est tout de même assez opulente. Et puis, elle a des liaisons permanentes avec les milieux financiers. Et Bonaparte est quelqu'un qui sait, et qui vous verrez à quel point il le savait, que l'on ne peut rien faire de sérieux si on n'est pas appuyé par des milieux financiers. En outre, Barras le pousse. Barras est tout de même son chef, hein, puis il est directeur. Barras le pousse à ce mariage. Barras en a un petit peu assez de Joséphine. Il se flétrit tout de même avec ses 33 ans. Vous savez, à ce moment-là, 33 ans, c'est un âge pour une femme. Aujourd'hui, on est très jeune. Mais Barras est fatigué de Joséphine et il aimerait bien l'installer du côté de Bonaparte. Et elle hésite beaucoup. Dans une lettre à une amie, elle dit, Bonaparte, je ne l'aime pas, je ne le déteste pas non plus, mais je le trouve drôle, dit-elle, parce que le O se prononçait O pour elle, je le trouve drôle. Il faut vous dire aussi qu'il n'était pas extrêmement avenant, parce qu'il avait de temps en temps ces fameuses poussées de boutons, il disait que c'était la gale. Enfin, c'est un garçon qui est extrêmement important à Paris maintenant, puisqu'il est le chef de l'armée de l'intérieur, hein, c'est un général divisionnaire, très très important à Paris. Elle se dit que c'est une relation utile et qu'elle le pensait prendre comme amant, mais Satan, trône Audin, qui est toujours là, la vieille maîtresse de Beauharnais, lui donne presque l'ordre, c'est le mot qu'elle emploie dans une lettre à une amie, elle lui donne presque l'ordre d'épouser Bonaparte. Et puis il y a Barras, qui l'épouse tous les deux, qui lui aussi lui dit, ma petite Rose, il faut faire une fin, tu as 33 ans, c'est pas très bien de passer de financier en financier, prenons ce Bonaparte. Après tout, le divorce existe maintenant en France. Et comme Barras explique à la petite que le général Bonaparte, on va l'envoyer en Italie, et que l'Italie du Nord, c'est extrêmement riche, et par conséquent, il y a de l'argent à faire, surtout qu'elle est tellement bien avec les fournisseurs, les Baudins et les autres, elle pourra faire des trafics très intéressants, elle peut tout de même, pendant un certain temps, la femme du général Bonaparte, quitte à divorcer. Et bien, c'est comme ça que ça va se faire, ce mariage. Le 9 mars 96, ayant pour témoin Barras d'un côté, Tallien aussi, le général Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais, ils ont triché tous les deux sur leur âge. Elle s'est rajeunie de 5 ans, lui il s'est vieilli d'un an pour que ça soit plus proche, elle fait croire qu'elle en a 29, lui fait croire qu'elle en a 28, enfin ça y est, ils se marient, et 3 jours plus tard, ce qui fait pleurer les biographes qui disent, enfin, une lune de miel de 3 jours, 3 jours plus tard ils partent. Mais leur lune de miel avait commencé dès le mois de novembre 95 à peu près. Alors 3 jours après, le voilà qui part pour son commandement d'Italie. On parle toujours de cette campagne d'Italie, mais enfin, il faut savoir de quoi il s'agit, pourquoi une campagne d'Italie. C'est les Girondins qui ont déclaré la guerre. On l'oublie, et Michelet n'aimait pas tellement qu'on le rappelait, pourtant c'est la vérité, vous savez, c'est la France qui a attaqué, la France girondine. C'est les Girondins qui ont déclaré la guerre à l'Europe, qui ont attaqué d'abord l'Autriche, puis la Prusse, puis l'Angleterre, puis l'Espagne. Ils ont attaqué pour des raisons d'expansion impérialiste, et surtout pour des raisons financières. Lorsqu'ils ont décidé d'attaquer en 92, c'est parce que les biens de l'Église qui couvraient les assignats commençaient déjà à s'étioler, on avait tellement lancé d'assignats, il fallait trouver de l'argent nouveau, et bien de l'argent on le prend à l'étranger, enfin, on le voit. C'était ça, la guerre des Girondins. Et Carnot, qui est exactement dans la ligne des Girondins, est aussi un homme qui veut une guerre qui rapporte. Je vous ai apporté là deux citations de Carnot que j'avais présentées dans mon étude sur la Révolution, mais qui trouvent de nouveau leur place ici. Écoutez bien les instructions que Carnot donnait aux généraux français au mois de juin et juillet 1994, Montrez à vos hommes, disait-il à l'un qui était Jourdan, montrez à vos hommes les richesses de l'Allemagne, à leur portée. Et voilà ce qu'il disait à Pichegru, en Belgique, prenez tout. Il faut vider le pays. Carnot étant dans ses dispositions, s'accorde tout à fait avec ce Bonaparte, qui, même quand il n'était pas général, essayait déjà de l'intéresser à une attaque sur l'Italie pour mettre la main sur la Lombardie. C'est exactement l'homme qu'il lui faut. Et c'est pourquoi Bonaparte va lancer la fameuse proclamation que vous savez, soldats, vous êtes nus, mal chaussés, mal nourris. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde, de riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, ça c'est ce qu'il faut dire, gloire et richesse. Il n'y a plus moyen de parler à ces soldats comme on leur parlait quand c'était les volontaires de 92. Vous savez, ces gens-là, ceux de 92, se battaient parce qu'ils avaient l'impression que la France était attaquée, ce qui n'était pas vrai, mais elle était envahie. La France avait attaqué. C'était les gens à qui on pouvait dire « défendez cette France, défendez la République ». Plus moyen de leur raconter ça aux soldats. Alors la technique de Bonaparte, et jusqu'à la fin de sa vie, la technique napoléonienne, ce sera de dire aux soldats « avancez parce que vous y trouverez de l'argent, des femmes et de l'argent ». C'est ça la guerre, selon Bonaparte. Je ne suis pas là pour faire une analyse militaire, d'ailleurs je suis incompétent. Je veux vous dire simplement qu'effectivement, il a remporté victoire sur victoire. Ça s'appelait Mondovi, ça s'appelle Lodi, ça s'appelle Castiglione, ça s'appelle Arcol, ça s'appelle Rivoli. Castiglione, paraît-il, les techniciens disent qu'il a failli la perdre, cette bataille. Arcol, ça ne s'est pas passé non plus comme la légende d'Épinal raconte, vous savez, enfin, le pont, le drapeau, vous savez, comme ça. C'est vrai, il a remporté très rapidement des victoires très importantes, indiquant un sens de la stratégie. Je dois vous dire pourtant, et j'y ai fait allusion dans mon dernier exposé, qu'il y a une confidence de lui qui compte et qu'il a faite à Bertrand en 1817, oui. Il lui a dit, dans ma première campagne d'Italie, j'avais en face de moi le général Beaulieu, le général Alvanzi, il n'y avait pas un seul état-major en face de moi où je n'eusse des auxiliaires achetés. Donc, avec l'ordre du directoire, Bonaparte achetait des complicités devant les adversaires. Ça facilitait peut-être un peu la victoire. Toujours est-il que c'est réellement un vampire qui s'abat sur l'Italie. Je vais vous montrer ce qu'il écrit à Carnot. Dès le 9 mai, il lui dit « Ce que nous avons déjà pris, est incalculable. J'espère que les choses vont bien, pouvant déjà vous envoyer une douzaine de millions. » Une douzaine, vous voyez, il sait très bien, Bonaparte, l'argent qu'il peut envoyer, l'argent qu'il a pris, qu'il peut envoyer au directoire. Mais comme il sait aussi qu'au directoire, un homme comme Barras et un homme comme Carnot ne veulent pas donner trop de détails, sa lettre ne portera que sur cette imprécision. Une douzaine de millions, il a peut-être envoyé 13 ou 14, il y en aura un pour Carnot et un pour Barras. Une douzaine de millions. Monsieur Madelin, qui raconte ça plein d'émerveillement, en disant que la campagne d'Italie a été splendide, ajoute que Bonaparte, partout, grand capitaine, se conduisait aussi partout en artiste. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, monsieur Madelin? Mais il veut dire que Bonaparte saisissait partout, même dans les propriétés privées, des tableaux, des statues, des manuscrits anciens. Parce qu'il avait, paraît-il, un goût artistique considérable. En fait, c'était parce que ça représentait de l'argent et qu'il envoyait ça à Paris, on pourrait le vendre. Il faut bien comprendre ce que c'est cette politique de Bonaparte en Italie du Nord. Il arrive comme un libérateur, hein, c'est toujours le vieux truc, puisque l'Italie était possédée par les Autrichiens, il faut faire croire aux populations qu'on vient les libérer. Peuple d'Italie, dit-il dans sa proclamation, l'armée française arrive pour rompre vos chaînes. C'est l'indépendance que nous vous apportons. Voilà les phrases officielles. Alors il faut voir ce qu'il dit en dessous. Ah, j'ai oublié de vous donner une autre proclamation qui est du 20 mai. Nous sommes amis de tous les peuples, mais plus particulièrement de vous, peuple d'Italie, fils des Brutus et des Scipions. Officiel. Alors, à ce qu'il dit dans la correspondance privée, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Il y a un vocabulaire à attraper. Et il est facile, avec quelques mots talismans comme liberté et indépendance nationale, de se faire écouter des imbéciles. À Talleyrand, je les connais, les Italiens, les fils de Brutus et Scipion. Je les connais, les Italiens, un peuple mou, superstitieux, pantalon et lâche. À Eugène, plus tard, montrez-leur de l'estime, d'autant plus que vous les estimerez moins. Et encore ceci, il faut parler paix et agir guerre. Voilà la technique napoléonienne. D'autre part, ce libérateur qui arrive au nom de la République française est un homme qui s'appuie exclusivement sur les notables, contre les pauvres. À Modène, en décembre 1996, il va dire « Je suis l'ennemi juré des scélérats, des anarchistes. Je ferai fusiller ceux qui voudraient troubler l'ordre social, ces gens qui sont l'opprobre et le malheur du monde. » Ben, les Italiens n'ont pas tardé à s'apercevoir de ce que c'était que le libérateur français. C'était un conquérant terrifiant. Et comme il y a eu pas mal d'insurrections, vous pensez bien, ces gens qui se trouvent exploités, saignés, se soulèvent. Alors on voit des choses atroces, comme ce qui se passe à Binasco, où Napoléon, enfin Bonaparte, déchaîne son ami Lannes, qui est chargé de raser le village. Comme Pavie, où il y a 10 000 paysans fuyant les exactions françaises qui se réfugient dans la ville, Alors on fait tirer le canon sur les malheureux paysans qui sont dans les rues. Puis après, comme la troupe a demandé, une grue de pillage. Général Bonaparte dit, vous avez la ville, pendant 24 heures, soldats, faites ce que vous voulez. Puis vous avez les épouvantables répressions de Faenza et d'Imola et de Vérone. C'est ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il est détesté. Il y a un avis qu'il a fait proclamer, où il dit, tout village où l'on aura sonné le tocsin sera sur le champ anéanti. Et il va écrire au ministre des Affaires étrangères, les collaborationnistes que nous avons trouvés, qu'on ne s'exagère pas leur influence. Si nous leur retirions notre appui militaire, ils seraient tous, en un instant, égorgés. Autre phrase de Bonaparte, sur sa politique italienne, ces peuples nous haïssent profondément. Ce qui est très singulier, ce qu'il faut que je souligne devant vous, c'est que, qu'est-ce qu'il est, Bonaparte, un général? C'est un général de division, et même maintenant un chef d'armée, si vous voulez, mais qui est chargé, par un certain gouvernement qui s'appelle le directoire, de faire la politique du gouvernement. Or, il fait sa politique personnelle. C'est un militaire abusif. C'est quelqu'un qui se permet de prendre des initiatives diplomatiques. Ce qu'un général ne peut que s'interdire. Le directoire avait déjà été extrêmement étonné de voir comment il s'était comporté à l'égard du pape. Le directoire qui détestait le pape avait dit « Vous allez marcher sur Rome et faire sauter le pape. » Bonaparte, lui, il n'agissait pas comme ça. Il s'est dit « Du pape, il a de l'argent. » Alors, j'ai aucune raison de le faire sauter. Il avait d'ailleurs des arrière-pensées là-dessus. Mais je vais lui tirer de l'argent. C'est la même chose que ce qu'il avait fait pour des neutres. Des neutres qui ne sont pas dans le coup, le duc de Modène, le duc de Parme. C'est une politique de gangster, très exactement. Vous savez, il a le pistolet qui le retient devant le nez, il a dit, si vous ne payez pas, je tire. Alors Modène donne 2 millions, de Parme donne 2 millions, et le pape, parce que le pape donne 21 millions. Comme ça, on le laisse tranquille. Alors le directoire dit, mais c'est pas exactement, dit timidement, c'est pas exactement la politique qu'on vous avait demandé de faire. Alors Bonaparte répond avec une espèce d'insolence incroyable, et il dit, les grandes opérations, ça c'est une lettre du 14 mai 96, les grandes opérations financières, vous entendez, financières, les grandes opérations financières, faites et affaires. Les grandes moissons que nous avons à cueillir exigent une unité de pensée diplomatique et financière. Deux fois le mot financier dans la même lettre. Une unité, parce que le directoire avait dit, mais nous songeons à vous envoyer un adjoint, enfin avec plein pouvoir, comme vous, Kellermann. C'est pour ça que Bonaparte se met fou furieux. Comment, Kellermann? Il faudrait que je partage avec Kellermann. Seulement comme c'est un réaliste, et vous le savez, et qui se dit que ce Kellermann est probablement dans le coup, il sera furieux de ne pas partager les profits, que fait Bonaparte? Il envoie à Kellermann personnellement 1 million. Pour que Kellermann ne l'embête pas. Là, je vous ai dit qu'il faisait une politique personnelle. Cette politique personnelle va vraiment extrêmement loin. Parce que le directoire, il a son idée sur ce qui va se passer en Italie du Nord. Le directoire s'était dit, nous voulons absolument obtenir que les Autrichiens cèdent notre conquête, enfin reconnaissent notre conquête de la rive gauche du Rhin, on l'avait saisie en 1994-95. Nous leur prenons donc provisoirement le nord de l'Italie, ça fera une monnaie d'échange. Et on leur fera signer un traité par lequel nous leur rendrons l'Italie, mais eux affirmeront, les Autrichiens, que ça y est, que c'est d'accord, que c'est entendu, la rive gauche du Rhin appartient à la France. Ce n'est pas la politique de Bonaparte. Bonaparte est le chef d'une armée d'Italie. Et à ce moment-là, contre l'Autriche, il y a une autre armée qui arrive par l'Allemagne. Une armée commandée par Hoche et par Moreau. Et toute l'épouvante, vous m'entendez bien, toute l'épouvante de Bonaparte, c'est que Hoche et Moreau arrivent avant lui à Vienne et traitent d'ordre du directoire, et traite avec l'Autriche à des conditions qui ne seront pas les siennes. Alors c'est là où il est prodigieux, hein, le pauvre petit directoire est tout tremblant de voir un homme aussi victorieux. Il va, de son propre chef, de sa propre autorité, ouvrir des négociations d'armistice avec les Autrichiens. C'est ce qu'il appelle les préliminaires de paix de Leoben le 18 avril 1997. Et il va encore plus loin. Il va envoyer des émissaires à Hoche et à Moreau, qui eux, à travers l'Allemagne, avancent sur Vienne, pour leur interdire de continuer. Enfin, leur interdire, de quel droit? Il n'est que le général de l'armée française d'Italie. Et tout à coup, il donne des ordres à l'armée française d'Allemagne. C'était la faiblesse du directoire que le directoire n'ose pas le stopper. Alors ces malheureux officiers généraux, Hoche et Moreau, s'arrêtent parce qu'ils croient que les nouvelles qui leur viennent, l'ordre qui leur vient de Bonaparte, c'est un ordre qui est confirmé par le directoire alors que ce n'est pas vrai. Tout ça parce qu'il veut être le général de la paix, parce que l'opinion publique attend la paix et qu'il veut, à son goût et à ses conditions, faire la paix avec l'Autriche. Et il va l'obtenir. Et il va créer ces deux républiques, la Cispadane d'abord, la Cisalpine ensuite, qui sont des républiques qu'il veut garder, bien entendu, soi-disant, ce sera pour le directoire, ce sera des républiques alliées, annexes, ça sera sa petite principauté à lui. Dans les mémoires de Luciano, Lucien, son frère, il y a ceci, l'arrière-pensée de mon frère Napoléon, c'était, si les événements tournaient mal en France, on ne sait pas, d'avoir à lui, en Italie, une retraite possible. Il avait d'ailleurs ouvert une véritable cour à Montbello, il faisait le roi, il faisait le prince, Il avait persuadé sa Joséphine de venir le voir. Vous savez, il n'était plus en 97 dans les mêmes sentiments à l'égard de sa femme qu'en 96 quand il l'avait épousée. Il avait appris par une femme de chambre, enfin, je peux bien vous donner les détails. Cette Joséphine, elle avait diverses possibilités amoureuses. Elle avait une camériste qui l'intéressait à tous égards. Et cette camériste, lorsque Joséphine avait été obligée de rejoindre son mari à Montbello, ça lui plaisait au fond de faire un peu la reine et la gentille là-bas, à Montbello, elle avait emmené sa camériste. Et sa camériste l'avait trahi parce qu'elle avait couché avec Junot. Alors Joséphine a pris ça très mal, que sa camériste se soit donnée comme ça à Junot. Elle lui avait fait une scène épouvantable. Et la camériste, pour se venger, dès qu'elle est arrivée à Montbello, avait raconté la vérité à Bonaparte. Elle lui avait dit, je suis obligé de vous dire, général, que ma maîtresse est extrêmement mal conduite. Ah, Bonaparte avait levé les sourcils, ça l'intéressait pas beaucoup, il le savait. Il savait que Joséphine avait un petit amant qui s'appelait le capitaine Hippolyte Charles. C'était un loustique de régiment, vous savez, c'était un type qui vivait de calembours. Elle riait beaucoup, enfin, elle pouffait follement lorsque Charles lui racontait l'histoire. Elle pouffait sans montrer les dents, naturellement, à cause de sa denture insuffisante. Toujours Bonaparte très au courant de ce qui se passe. Et il n'écrirait plus en 1797 à Joséphine ce qu'il lui avait écrit l'année précédente et que j'avais recopié ici. Âme de ma vie, toi qui m'inspires des mouvements impétueux, aussi volcaniques que le tonnerre. Ce tonnerre et ce volcan mêlé me paraissent un peu curieux. Il est très attentif à ce qui se passe en France, il voit qu'il y a une poussée de droite, il se dit il ne faut pas trop me brouiller avec la droite. Cependant, il ne veut pas non plus que la droite reprenne le pouvoir, parce que si la droite arrive, c'est le roi qui revient. On dit même de lui qu'il sera monk. Vous vous rappelez le monc de Cromwell, enfin celui qui va rétablir Charles II, pas question qu'il soit monc. Joseph de Maistre, qui est un homme de la cour du Piémont, croit à ce moment-là que Bonaparte va rétablir la monarchie en France. Il se trompe bien. Rétablir la monarchie, pas question, puisque c'est lui qui va être le futur monarque. Il va très rapidement soutenir le directoire lorsqu'il le voit menacé par les royalistes, par le coup d'état de Fructidor. Il ne se mouille pas personnellement. Il enverra Augereau, le 4 septembre 97, c'est Augereau qui fera l'opération de police qui nettoiera les royalistes. Puis il se précipite pour faire la paix. Il est le général de la paix avec Campo Fermio, qui est du mois d'octobre 97. Quand il rentre en France, on dit de lui le général, vous savez, c'est pas le général Bonaparte, il n'y a plus qu'un général, c'est lui. Sa femme est revenue à petite journée quand elle a traversé Moulins. C'était le 25 décembre, le jour de Noël 97, quand elle a traversé Moulins venant d'Italie pour rejoindre Paris. La ville de Moulins lui avait fait une réception incroyablement solennelle avec Arc de Triomphe sur lequel il y avait écrit « Honneur à la vertueuse épouse du plus grand des héros ». Alors il est à Paris un homme de premier plan, il va se plaindre plus tard à Bertrand en disant « On aurait dû me donner Chambord ». On m'en avait parlé, je crois que c'est Talleyrand qui lui avait dit « On va vous donner Chambord ». Résidence super royale, pour lui ça lui plaisait, on ne lui donnera pas Chambord. Et dire « En fait tout de même, il faut bien vivre ». Alors il obtient 100 000 francs, c'est pas mal tout de même, enfin multiplié par 4. Il obtient 100 000 francs solidant pour sa mère, il a écrit une lettre au directoire, il dit « Quant à moi, j'ai l'habitude d'un sacrifice entier de mes intérêts, je ne demande rien. » Et puis du reste, je n'ai presque rien rapporté de cette fortune, j'ai 300 000 francs, c'est tout ce qui me reste. J'ai 300 000 francs, alors comment ça se fait qu'il raconte, il se coupe. Il raconte à Bertrand, dès que je suis rentré d'Italie, j'ai fait faire des réparations dans ma maison d'Ajaccio, qui n'était plus digne de moi, ça m'a coûté 1 200 000 francs. Comment ça se fait qu'il achète cette fois l'hôtel de la rue Chantraine, l'hôtel de Dalisque. D'ailleurs, on a débaptisé la rue, ça s'appelle rue de la Victoire. Il achète 52 000 francs et il achète aussi, il est vrai, à crédit, pour 1 200 000 francs de biens nationaux belges qu'on a chipés en Belgique. Ça lui fait 3 millions, disait Bourrienne, à peu près 3 millions. Donc 12 millions d'aujourd'hui, c'est un commencement, c'est un petit commencement. Pour un homme comme lui, ce n'est qu'un simple apéritif.